Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le débat politique de Radio Ndikiluka. Il porte sur le bilan des 6 mois d'état d'urgence sécuritaire décrété par le pouvoir centrafricain. En effet, l'article 43 de la Constitution en vigueur stipule, je cite, « Le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après avis du Conseil des ministres, du Bureau de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, proclamer l'état de siège ou l'état d'urgence pour une période de 15 jours. Ce délai ne peut être prorogé que par l'Assemblée nationale réunie en session extraordinaire avec ou sans quorum. À titre de rappel, après le putsch manqué du 13 janvier dernier de la coalition des patriotes pour le changement CPC, dirigée par l'ancien président François Bozizé Nguvonda, le gouvernement a fait usage de cet article 43 en décrétant l'état d'urgence sécuritaire. L'état d'urgence sécuritaire, il faut le rappeler, est une période exceptionnelle pendant laquelle les autorités peuvent restreindre les libertés politiques ou individuelles, surtout pour des personnes soupçonnées d'être une menace pour la sécurité intérieure. Aujourd'hui, nous allons dans un instant débattre du bilan de cette mesure exceptionnelle instaurée le 5 février dernier et qui est arrivée à terme ce vendredi 6 août. Et pour en parler, je reçois M. Paul Cressan-Beninga. Bonjour.
Bonjour.
Docteur en sciences politiques et porte-parole du groupe de travail de la société civile GTC, Joseph Bindoumi, bonjour.
Bonjour.
Président de la Ligue centrafricaine de droits de l'homme, monsieur Fidel Gwandjika, bonjour.
Bonjour à la population de la Waka.
Vous êtes ministre et conseiller spécial du président Touadéra. Et Joseph Bindunga, bonjour.
Bonjour Armando.
Député de Bimbo 3, membre de l'opposition démocratique. Le débat, c'est après cette courte pause.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndikiluka.
Une fois de plus, bonjour. Avant d'aborder ce sujet, signalons que nous avons convié le représentant du ministère de la Sécurité publique, même le porte-parole de la présidence, mais ceux-ci ne se sont pas rendus disponibles pour en débattre. Première question, vous, M. Fidel Gwandjika, quel est le bilan, selon la présidente de la République, de l'état d'urgence en tant que ministre et conseiller spécial du chef de l'État ?
Je représente l'exécutif, je représente le ministère de la Défense nationale, je représente les forces de défense et de sécurité ici sur ce plateau, M. Armando.
Merci. Donc ça veut dire que toutes les questions pourraient orienter votre endroit.
Tout à fait.
Je lui adresse toutes mes félicitations.
Merci, M. le magistrat Bindoumi. Armando, la vaillante population de la République centrafricaine, je suis aujourd'hui en mesure de vous dire que le bilan des 6 mois faisant suite à l'état d'urgence est un bilan éloquent. Parce que durant ces 6 mois, grâce à l'état d'urgence, le peuple est allé aux urnes, voter dans la sérénité les élus de la nation. Parce que au lendemain de la victoire du président Touadéra, l'opposition armée ne voulait pas que cette élection ait lieu. La coalition 2020, Code 2020 de l'opposition démocratique, Code 2020, à la victoire du président de la République, au premier tour, a fait un appel solennel à la population de boycotter les élections législatives.
C'est l'opposition démocratique ?
L'opposition démocratique et le porte-parole de la coalition, à l'époque c'était Monsieur Maître Nicolas Tiangaï, qui a demandé à toute l'opposition confondue de boycotter ces élections parce que l'opposition croyait toujours à ce qu'on appelle une transition ou à un coup d'État constitutionnel. Et le président de la coalition 2020 à l'époque, c'était le général Bozizé, ancien président de la République, qui également a rejoint l'opposition militaire, l'opposition armée, pour mettre à mal la République centrafricaine et la démocratie. Et donc, la population a dit non à l'opposition démocratique. Même les candidats de l'opposition démocratique également n'ont pas accepté l'appel de la Côte 2020 à boycotter les élections. L'honorable Bindunga est devant moi ici. Il est allé aux élections. La base de l'URCA a demandé à Dolegele, qui suivait aussi cet appel-là, de revenir à la raison. Et donc, tout le monde est allé aux élections. Pourquoi ? Parce que les forces de défense et de sécurité, greffées des forces armées spéciales du Rwanda et nos amis, les instructeurs de la Russie, ont déblayé le terrain. Je ne dirais pas en Myanmar, mais On est anti.
Vous avez 3 minutes, vous avez déjà dépassé. Je vous donne 2 minutes pour ça fait 5 minutes pour nous dire est-ce que le bilan actuel est satisfaisant par rapport au gouvernement.
C'est ce que je suis en train de dire. Et donc, les forces de défense et de sécurité, appuyées par les alliés, ont déblayé le terrain, ce qui a permis à la MINUSCA de distribuer les urnes, et les urnes dans tout le pays, pour que ces élections-là aient lieu dans la tranquillité. On vient justement à peine de finir le processus électoral dans le délai inclus dans ces 6 mois-là. Et donc, les 7 autres députés ont déjà été élus. On attend seulement le verdict de la Cour constitutionnelle. Je vous dis, c'est un succès. Pourquoi ? Parce qu'on a frôlé le pire le 13 janvier. Si la coalition CPC, avec les mercenaires qui étaient dans cette coalition-là, arrivait à chasser le président Touadéra, c'était toutes les institutions issues du dialogue, le plus important dialogue qu'on ait jamais connu, que la RCA n'a jamais connu, c'est le forum de Bangui, qui a mis en place toutes ces institutions, et dont le magistrat Bindoumi, ici présent, est le président du comité de suivi.
Quelques secondes.
Voilà, quelques secondes. Mais on y reviendra.
Il n'y a pas de souci, on y reviendra.
Et donc, je vous dis
donc,
que le bilan,
que pour le pouvoir, le bilan est positif.
Les gens circulent librement. Presque librement. Avant la signature de ce décret-là, et non seulement ce décret, avant la signature du verdict de l'Assemblée nationale prorogeant
l'état d'urgence,
la route qui ravitaille la République centrafricaine, le poumon de la RCA.
Gouar-Belouko,
Bangui-Belouko.
Okay. Aujourd'hui, voilà, vous avez épuisé votre temps. Nous allons écouter M. Joseph Bendonga sur le bilan de cet état d'urgence qui arrive à terme aujourd'hui.
Monsieur Armando, d'abord, je dois dire à Monsieur Ngwandika que le MDREC ne fait pas partie du Code 2020. Le MDREC ne s'est jamais réuni avec le Code 2020 pour débattre de la République centrafricaine. Et l'opposition en Centrafrique n'est pas seulement le Code 2020. Donc, qu'il ne mélange pas les pédales. Ça, c'est de un. De deux, maintenant, je réponds à votre question. Le résultat, ce que devrait donner d'abord le couvre-feu et l'état d'urgence, c'est nul. Le peuple centrafricain n'a rien tiré de cela. Au contraire, le peuple centrafricain, on a ouvert une vanne qui a permis à l'armée et aux troupes, en dehors des troupes rwandaises, de mettre le peuple centrafricain sous la coupe et des forces de la Russie et des FACA. Donc, ce ne sont pas l'état de siège et le couvre-feu qui ont permis à la République centrafricaine d'aller aux élections, mais c'est la volonté du peuple centrafricain d'aller aux élections et de voter ses représentants. Qu'on ne nous dise pas ici qu'il y a sécurité en République centrafricaine. Il n'y a pas de sécurité aujourd'hui en République centrafricaine. Personne. Les forces. On a laissé Bozizé avec sa bande venir jusqu'à l'entrée de Bangui, et c'est à l'entrée de Bangui qu'on a activé le dispositif militaire pour les bloquer et les repousser. On les a repoussés, ils sont allés dans la brousse, c'est l'éternel recommencement. Vous allez voir que d'ici demain, eh ben, ces gens-là vont revenir encore. Donc je pense qu'on n'a mené aucune guerre dans le sens noble du terme pour libérer la République centrafricaine, mais c'est pour libérer les villes. Et CPC et les autres rebelles, la Selika, tout ça, sont là dans la brousse. Ils reviennent traquer les forces de l'ordre. La population centrafricaine, pendant ce couvre-feu, a souffert dans sa chair et dans son âme. L'armée s'est livrée, ainsi que les Russes, au pillage systématique du peuple centrafricain. Tout le monde reconnaît cela, et la communauté internationale aussi reconnaît cela. Donc, dire aujourd'hui aux Centrafricains que le bilan de l'état de siège et du couvre-feu est positif, c'est une injure impardonnable au peuple centrafricain qui est meurtri, qui est souffert. On a expolié les gens, volé leurs biens, pillé leurs maisons. Et ça, c'est pas un conseiller à la présidence qui viendra ici dire aux Centrafricains qu'ils ont tiré un côté positif de cela. Cela prouve à suffisance que le régime Touadéra n'est pas en mesure de diriger la République centrafricaine. C'est un régime qui... La République centrafricaine est un pays qui n'a pas de dirigeant.
Quelques secondes.
Et le dirigeant de la République centrafricaine n'a pas les qualités et le leadership de quelqu'un qui puisse diriger un État. Donc, aujourd'hui, je m'incline devant la souffrance du peuple centrafricain par la faute des aventuriers politiques qui viennent au pouvoir pour s'amuser, et ce peuple-là n'a continué qu'à payer un lourd tribut, et ce peuple-là ne mérite pas cette souffrance. J'ai les preuves ici, et puisque on est quatre autour de cette table-là, je n'ai pas le temps tellement de rentrer dans les détails.
Voilà, mais comme vous l'avez dit, vous n'avez pas assez de temps.
C'est un échec cuisant.
Monsieur Beninga, vous avez épuisé votre temps. Monsieur Paul Christian Beninga, le GTSC, quel est le bilan actuel de cet état d'urgence?
Alors, merci Armando de me passer la parole. Je dois dire que ce débat est extrêmement intéressant. Intéressant parce que ça nous permet de situer l'opinion sur ce qui a été fait, sur ce qui devrait être fait et ce qui doit être fait. Je me réjouis également que le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, Joseph Bindoumi, soit autour de cette table parce que je vais le titiller également pendant ce débat. Ça nous permet d'avoir une idée claire sur ce qui devrait être fait. Ceci dit, avant de répondre à votre question, je voudrais d'entrée de jeu revenir sur la situation qui a prévalu avant le 13 janvier 2021. Souvenons-nous, en 2019, si ma mémoire ne me trahit pas, il y avait une situation qui laisse penser que nous allons connaître le pire. Et je rejoins le ministre Wandika sur le fait que le coup d'État manqué du 13 janvier allait mettre en difficulté nos institutions, notamment les institutions de la République, et c'est une chose à condamner. Même si je ne suis pas d'avis sur la lecture qu'il a faite du comportement des partis politiques de l'opposition, et j'y reviendrai. Je le dis pourquoi ? Parce que, en réalité, ce qui s'est passé le 13 janvier 2021 est une faille qu'on a décelée dans le système, dans notre système de renseignement d'une part, et dans le mécanisme de la sécurisation des biens et des personnes sur le territoire centrafricain d'autre part. Je m'explique. La première faille venait du fait que Bozézé puisse rentrer sur le territoire centrafricain sans pour autant que le service des renseignements soit informé et qu'on puisse mettre les dispositifs pour l'empêcher. Pour moi, c'est une faille. Deuxièmement, comment est-ce que la CPC peut arriver à frapper à la porte de la capitale centrafricaine, la ville de Bangui, sans pour autant que les dispositifs au niveau de renseignement et au niveau de la sécurité soient pris? Pour moi, c'est des failles et on devrait corriger cela. Malheureusement, quand on voit ce qui s'est passé après, il y a une forme de prime à l'impunité parce que celui qui est à la charge ou qui était à la charge des renseignements a été promu ministre de la sécurité et celui qui était ministre de la sécurité se retrouve aujourd'hui patron des renseignements. Et donc, voyez-vous, on aurait pu ou on aurait dû éviter ce qui s'est passé le 13 janvier. Le 13 janvier, je suis entièrement d'avis que l'état d'urgence se justifiait. Ça se justifiait simplement parce que lorsqu'une nation est en péril, il faut nécessairement prendre des mesures légales pour pouvoir sauver ce qui reste à sauver. Et donc, de ce point de vue-là, l'état d'urgence se justifiait. L'état d'urgence, c'est une nation qui est en péril, mais on renforce également le pouvoir des autorités civiles. Maintenant, dans les faits, c'est là où je vais me désolidariser du bilan qui a été fait par le ministre Wandika. Je ne rejoindrai pas non plus le président Binoua, que je trouve fondamentalement pessimiste dans sa lecture. Je ferai un bilan mitigé. Pourquoi ? Parce que à la suite du coup d'État du 13 janvier, il y a une opération de reconquête du territoire qui a été lancée. Ça a permis de libérer certaines villes, même si il faut apporter un petit bémol parce que dans certaines villes, les groupes armés se retirent et se retrouvent à 4-5 km dans la bouse et continuent de commettre exactions et forfaitures sur les populations civiles. Et c'est à condamner. Et donc, à partir de là, le bilan est mitigé. Deuxième chose, et c'est là où je vais interpeller le président Binoumi, c'est sur les cas des tueries, des cas d'assassinat, d'exécution sommaire qu'on a déploré ça et là. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, nos forces de défense et de sécurité avaient la gâchette facile. Même dans la ville de Bangui, on déplorait des cas de tuerie. Je me souviens que des jeunes ont été froidement abattus à Benzi ou à Miskine. Je me souviens que des jeunes ont été froidement abattus à Bimbo. Je me souviens également qu'on dénonce, il n'y a pas de preuves, et donc je préfère être prudent de ce point de vue-là, qu'on parle même des carnages et des tueries des corps qui auraient été, passez-moi l'expression, elle n'est pas jolie, jetés vers Mboko et autres. Et donc, à partir de ce moment, je trouve que nos forces de défense et de sécurité avaient la gâchette facile. Et il y a une forme de ce que je qualifierais de règlement de compte. Même lorsqu'on renforce le pouvoir pouvoir des autorités civiles, il faut quand même qu'il y ait des fondements. Lorsque le 17 janvier, par exemple, Catherine Sapampaza a été empêchée de sortir de territoire, lorsque certains responsables ont été empêchés de sortir de territoire, on peut comprendre, mais il faut que cela soit légalement fondé.
Puisque vous avez titillé M. Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, nous pouvons aussi poser cette question. Cette mesure a-t-elle permis la violation massive des droits de l'homme ou non?
Alors, je vous remercie. Je voudrais être d'accord avec vous que ce débat est très important. J'ai deux préalables. Le premier préalable, c'est que ce débat doit se poursuivre dans la sérénité. Ça, c'est le premier préalable. Le second préalable, c'est que je remercie le ministre Ngwandika qui a signalé que le forum de Bangui était le plus grand dialogue que nous ayons eu, qu'il a souligné que Bité, le président du comité de suivi, mais n'a pas continué pour dire que dans la préparation du dialogue républicain, le comité de suivi du Forum national de Bangui a été oublié. Donc, je la remercie très sincèrement parce que vous ne pouvez pas reconnaître une chose et reconnaître le contraire de cette chose. On pensait que les recommandations du Forum national de Bangui allaient être utiles pour la préparation du dialogue républicain et qu'on éviterait dans ces conditions des recommandations du Forum national de Bangui pour les répéter au dialogue républicain. Maintenant, vous me posez une question. J'ai vu que mes co-débatteurs sont allés dans tous les sens. Je vous donne les éléments suivants. Lorsque la sécurité du pays est menacée par des circonstances graves, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être une inondation, ça peut être un incendie grave, comme ça s'est passé au Liban. Le président de la République a le droit de prendre des mesures d'urgence pour que les règles accordées à la liberté des citoyens par la Constitution ne soient pas systématiquement respectées. Et donc, lorsque nous avons entamé le processus électoral, j'ai écouté mes co-badeurs ne l'ont pas souligné, la première mesure qui a été prise au niveau de la présidence de la République en vertu de l'article 43, c'était le couvre-feu qui devait commencer de 20h à 5h du matin. Et puis après le couvre-feu, le président de la République a pris la deuxième mesure qui est l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est-à-dire cette période qui permet à l'autorité civile, au pouvoir administratif, d'exercer des pouvoirs qu'il ne pouvait pas exercer en temps normal sans l'avis préalable du procureur de la République ou des magistrats. Donc nous sommes allés dans l'état d'urgence. Maintenant, vous me posez la question, puisque l'état d'urgence est arrivé à terme le vendredi dernier, le 16, est-ce que cet état d'urgence a rempli les conditions attendues? Nous avons eu déjà l'occasion de donner une réponse dessus. Je crois que mon co-débatteur Ngwandika l'a écouté. Nous avons dit quoi? Nous avons dit que lorsque le gouvernement prend une mesure en raison des circonstances difficiles pour rétablir l'ordre et ramener la paix, ces mesures qui sont prises devraient à la fin, donc le 6 août, donner des résultats que la paix s'est améliorée. J'insiste dessus. Donner des résultats que la paix s'est améliorée. Et les mesures qui étaient dangereuses à l'époque qu'il fallait empêcher, c'était quoi? C'était les violences. On m'a dit que le 13 janvier, on allait renverser les institutions. C'est vrai? Mais on n'a pas aussi dit que avant le 13 janvier et après le 13 janvier, la chose qui était dangereuse, c'était les violations massives et systématiques des droits humains. Suivez-moi, je voudrais regarder mon cher Ngwandika en face. C'était des violations massives et systématiques des droits humains. Est-ce que pendant les 6 mois...
Mais est-ce que aussi pendant ce temps-là, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme a pu recenser quelques cas, par exemple un taux que vous pouvez nous communiquer?
Je pense que nous avons une heure de débat. Nous allons vous donner tous les détails que vous voulez. Mais la Ligue centrafricaine des droits de l'homme n'a jamais dormi. Alors, je vais vous donner une petite réponse. Lorsqu'il y a eu des tueries à Bossangwa, les gens ont dit oui, mais on n'a pas écouté la Ligue centrafricaine des droits de l'homme se plaindre. Mais la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, lorsqu'il y a des cas graves, fait des investigations, rassemble les preuves. Parce que, au niveau de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, lorsque nous avons ces preuves-là, nous les utilisons pour les amener devant les juridictions nationales, devant les juridictions hybrides comme la Cour pénale spéciale ou devant les juridictions internationales.
Puisque nous sommes dans le... Monsieur Paul Christian Bininga, vous voulez rebondir? Calmez-vous, vous aurez le temps puisque c'est des rebondissements.
J'ai annoncé que je vais titiller le président Joseph Bindoumi et je le fais à dessein. J'ai posé le préalable pourquoi? Simplement parce que lorsqu'il y a eu ces exactions, le président Bindoumi ayez le courage de reconnaître que la Ligue centrafricaine droits de l'homme n'a pas été au devant de la scène. Je le dis pourquoi. C'est vrai, vous pouvez mener...
Vous voulez parler de quel événement? De Boussangoua?
Non, pas Boussangoua. Oui. On est... Boussangoua, c'est récent. Oui. Je veux dire, par exemple, les tueries à Miskine, à Bimbo. Lorsqu'on parle des... Au moins, prononcez-vous, dites qu'il y a une enquête qui va être menée. On aurait compris. Ce que je vous reproche, c'est le fait que vous n'ayez pas pu annoncer, ne serait-ce que les enquêtes qui sont en cours. Ça permettrait à l'opinion d'être située. Ça permettrait de savoir que la Ligue centrafricaine des droits de l'homme est au devant de la scène, parce qu'il s'agit véritablement, et vous l'avez dit, et vous l'avez reconnu, des violations des droits de l'homme, et c'est des violations qui sont à condamner.
Oui, monsieur, vous voulez répondre rapidement.
Je voudrais dire que Christian est membre de la société civile. Moi aussi, je suis membre de la société civile, mais nous avons des techniques différentes.
Entièrement d'avis avec vous.
Vous êtes d'accord avec moi? La Ligue centrafricaine des droits de l'homme, ce n'est pas l'organisation spectaculaire. Nous sommes une organisation qui défendons les témoins, qui défendons les victimes, qui défendons les parents des victimes. Ça veut dire que lorsque nous avons des dossiers, des gens qui viennent nous voir pour dire Ligue centrafricaine, nous avons été ceci, nous avons été cela, nous partons sur le terrain, nous rassemblons les noms, les pièces à conviction.
Et donc c'est un peu difficile pour la Ligue centrafricaine des droits de l'homme de communiquer actuellement sur combien de cas d'exaction.
Alors nous allons vous dire que nous avons une base de données. Alors ça, je vous le dis, puisque ce n'est pas confidentiel, nous avons une base de données. Qui fait que tout ce qui se passe en République centrafricaine, qui est porté à notre connaissance, soit par les médias, soit par les victimes, soit par quiconque, nous ouvrons un dossier de renseignement pour connaître la vérité de ce qui s'est passé. Et donc, à ce niveau-là, nous vous disons que...
Oui, quelques secondes, monsieur.
Entre le 13 janvier et le 6 septembre, aujourd'hui, le nombre de violations des droits de l'homme, je répète, le nombre de violations des droits de l'homme s'est multiplié par deux.
Monsieur Joseph Bendunga, vous voulez réagir en quelques secondes?
Juste par rapport à monsieur Paul Cresson et monsieur Bindoumi, je ne dénie pas au président de la République le droit d'utiliser ses droits régaliens pour rétablir la paix. Mais le président a pris ces deux décisions-là, force est de constater que les hommes et les femmes qui doivent appliquer ça sur le terrain sont passés outre cela et ont commis plus d'exactions, plus de torts au peuple centrafricain. Voilà ce que je veux
dire. Oui, monsieur Fidel Guantica, vous souriez.
Non, mais j'ai le droit de sourire, monsieur le journaliste.
Oui, Armando.
Quand je vois l'honorable Bendunga...
Je suis député, mais je ne suis pas honorable.
Quand je vois le
c'est
député,
le peuple centrafricain qui est honorable. J'ai battu campagne pour être député.
Non, merci beaucoup. C'est cette précision que je voulais apporter. Bandica, oui.
Monsieur le député Bendunga est dans une négativité légendaire. Il ne pourra jamais changer. C'est son rôle intrinsèque de l'opposition démocratique et on n'y peut rien. Je reviens vers... le président de la Ligue des droits de l'homme. Je suis déçu de ce qu'il vient de dire, que sans donner un chiffre, il dit que le nombre des victimes dues à cette période, pendant cette période d'état d'urgence, s'est multiplié par deux. Mais c'est quel chiffre qui est multiplié par deux? Je reviens un tout petit peu sur ce qu'il a dit concernant le forum de Bangui. Tout Centrafricain sait que le forum de Bangui, c'est la base fondamentale qui a donné naissance à une nouvelle République centrafricaine. Et les 637 recommandations issues de ce forum ont été mises à disposition de M. Bindoumi et de son équipe pour que, à chaque fois, il informe l'opinion nationale et international. Bon, les trois mois.
Est-ce que M. Nguandika, ça vous va, puisqu'on n'est pas sur le forum de Bangui?
Mais il parle de ça.
Oui, mais puisque vous avez récadré, puisqu'on est dans le bilan
d'état d'urgence. S'il vous plaît, quand je parle, vous ne bloquez pas les gens.
Non, je recadre le débat, c'est mon devoir.
Merci, c'est votre devoir de rétablir le débat, mais je réponds à sa proposition qui dit que c'est le forum le plus important et il n'a pas été associé. Je dis, c'est faux, j'ai réglé ce problème, il est venu me voir. M. Bindoumi fait bien partie de l'équipe du prochain dialogue républicain. Mais ce que M. Bindoumi réclame, c'est que il voudrait que...
L'équipe.
Non. L'équipe son comité de suivi soit hissé au rang d'une institution, qu'il soit représenté comme une institution. Et c'est ça que le gouvernement n'est pas encore d'accord. Mais Le problème est réglé.
Bon, d'accord, le problème
revenons
réglé.
Au couvre-feu.
Bon, non, pas
le couvre-feu a été allégé.
Non, mais... pas au couvre-feu, puisque vous avez. C'est un rebondissement.
Mais ce n'est pas un rebondissement, ça, c'est mon.
Oui,
c'est mon tour de parole maintenant.
Non, mais puisque vous avez terminé, voilà. Maintenant, je vous donne une autre minute, en deux minutes. Combien de chefs de guerre ont été arrêtés à nos jours, puisqu'on est dans le bilan de l'état d'urgence.
Je vais vous dire, en ce qui concerne le nombre des victimes, le nombre de victimes recensées pendant ces six mois est évalué. De notre côté, du côté du gouvernement, à 1460. Les Nations Unies ont évalué cela à 1221. Il y a eu 144 tués, y compris les forces de défense et de sécurité.
Et c'est le rapport récent. Hein,
c'est non,
le
oui,
rapport
c'est récent. Récent.
Mais qui n'a pas pris en compte l'état d'urgence.
Non,
hein.
non.
C'est entre le 20 juin 2020 et juillet 2021.
Ça, c'est. J'ai ce dit rapport. Pour nous, c'est 1460. Eux, c'est 1221. Qu'ils viennent de le dire. Dont 144 morts et 7 tués. Mais les 7 tués, on ne les a pas tués pendant ce laps de temps que vous dites. Les 7 tués des soldats soldats de la paix. C'est pendant, depuis le début,
mais je
jusqu'à maintenant.
Je rappelle toujours, M. Ngwandika, que ce rapport n'a pas été pris en compte. L'état d'urgence qui a été décrété durant 6 mois.
Mais c'est un chiffre qu'ils ont donné aujourd'hui. On n'a pas tué en un seul mois 1221 personnes. Voilà.
Mais ils ont
c'était
commencé
rapport
les rapports
vient de...
avant même l'état d'urgence. Voilà. Ça veut dire que vous n'êtes
vous
pas
me
dans
me
l'état
pas
d'urgence.
Je suis dans l'état d'urgence. L'état d'urgence a pris fin... hier, le rapport des Nations Unies, c'est hier. Vous avez bien dit que c'est entre le mois de juin et le mois de juillet. Le mois de juin et le mois de juillet 2021.
Ça fait un an.
Alors, ce n'est pas dedans.
Allez,
dites-moi. Je suis mathématicien.
Allez-y,
dites-moi.
C'est loin parce que six mois de plus. Mais
oui, mais c'est inclus dans ces un an-là. Et le rapport vient de sortir. Nous avons, au niveau des forces de défense et de sécurité, fait interpeller 1473 personnes. Et c'est un document officiel. Vous voyez un document officiel, officiel de la gendarmerie nationale. 1473 personnalités arrêtées.
Personnalités, hein, ou personnes.
Bon, j'ai dit personnes.
Oui, d'accord.
Dont plusieurs étrangers, plusieurs soldats. Il y a eu des défections au niveau des forces de défense et de sécurité. Des gens qui se sont désolidarisés de l'armée, ils ont fait désertion pour rejoindre la CPC. Il y a également eu des désertions au niveau du CPC. Ces gens-là, ils sont revenus. On a pris des gens qui ont déserté. Monsieur Bindoumier est ici devant moi. On vient d'assister à un procès où des gens qui n'ont rien à voir avec ça ont été... Mais tout ça, c'est dans ce cadre de...
C'est dans ce cadre. Mais selon votre document officiel, par rapport à ma question que vous ne voulez pas répondre.
Vous dites que eux ils disent que le territoire était entièrement
non,
occupé.
Non, je parle
à
de
l'époque,
de
c'était deux tiers d'occupation du territoire par Robert. Aujourd'hui, on a reconquis tout ce territoire-là. Tout a été reconquis. Tout. 100%, je vous le dis. Les Nations Unies disent 83%. Et le Conseil économique et social, ce matin sur votre onde, dit que c'est 88%. Et nous, au gouvernement, on dit que c'est 100%, puisque toutes les institutions, qu'est-ce que je voudrais dire? C'est-à-dire que les préfets, les sous-préfets,
voilà.
Les secrétaires généraux,
tous les représentants de l'État. Effectivement, M. Ngwandika, je vais formuler ma question tout à l'heure.
Allez-y.
Nous sommes dans le bilan, en dehors de Abbas Sidi qui tuait, combien de chefs de guerre ont été arrêtés pendant cet état d'urgence qui devrait mettre fin même d'ailleurs à l'insécurité?
Le chef de guerre qu'on cherche à neutraliser, c'est le président Bozizé. C'est-à-dire qu'il faut neutraliser la tête et le reste, ça va aller de soi. Mais ils se sont réfugiés. Ils se sont dissimulés dans la population. Tous ces gens que vous dites que c'est les chefs de guerre qu'on devrait tuer là.
Mais je ne parle pas de tuer, je parle d'arrêter.
Arrêter ou tuer, c'est la même chose.
Non, c'est pas la même chose.
Voilà.
Non, ne me prêtez pas d'attention. Je ne parle pas d'arrêter.
Ces chefs de guerre se sont dissimulés dans la nature et ils se comportent maintenant
en
guérilla. Ils n'ont plus la force qu'ils avaient avant pour venir déranger le sommet.
Monsieur Ngwandika, je vous retire la parole. Monsieur Joseph Bindunga voudrait prendre la parole sur la question de chef de guerre et du bilan fait par le ministre conseiller du président de la République.
Il n'y a pas de ministre conseiller. Ou on est ministre ou on est conseiller. Et la Cour constitutionnelle a eu à
trancher.
À trancher cette histoire.
Ça, c'est des attaques personnelles.
Monsieur Ngwandika.
C'est des attaques personnelles, s'il vous plaît.
On est
dans le débat.
Moi, je raisonne.
Ça, c'est des attaques personnelles.
Je raisonne sur le point de droit.
On n'est pas sur le point de droit.
Je suis sur le point de droit. Et j'ai en face de moi le conseiller de Monsieur Touadéra. Ce que le conseiller de Monsieur Touadéra vient de dire là, ça me fait pitié. Et vous savez, quand dans un pays, le régime tient ce langage-là, ça veut dire que c'est un régime qui est aux abois. C'est un régime qui est dépassé, un régime qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Et on ne peut pas parler de tuer les gens, tuer. Non, quand quelqu'un pose des actes délictueux, on cherche à l'arrêter et à le traduire devant la justice. Et si, dans les opérations, le monsieur arrive à perdre la vie, à partir de ce moment, son sang retombe sur lui. Mais si le but recherché par Touadéra, c'est ce que Touadéra veut, la mort de Bozizé, mais moi je voulais que Bozizé comparaisse comme Bokassa devant la barre, qu'il se justifie devant ce peuple-là. Il a dirigé ce pays-là pendant 10 ans et aujourd'hui, pourquoi a-t-il encore pris les armes après ce qu'il avait pris et qui était très dévastateur pour la République centrafricaine? Pour ce qui est du bilan, qui on a tué? Qui on a arrêté? Mais c'est plus la population centrafricaine qui a été victime des bombardements et des tueries sauvages des forces de sécurité et de défense nationale, y compris des Russes. Donc, aujourd'hui, c'est le peuple centrafricain qui a payé un lourd tribut. Le pouvoir est revenu entre les mains de l'armée, au lieu que l'armée puisse utiliser ce pouvoir-là pour sécuriser la population civile, poursuivre, traquer, arrêter ceux qui sont venus porter atteinte à la République.
Quelques secondes.
Mais c'est plutôt la population qui a payé le lourd tribut. Et en date du 23 juillet, j'ai écrit au ministre de la Défense, au ministre de la Sécurité, pour leur demander de remplacer les militaires qui sont à Boeing dans ma circonscription, parce que ces soldats-là s'en prennent délibérément à la population. C'est pour dire que cela a donné l'occasion, l'opportunité aux Russes de piller le pays, à notre armée, de piller le peuple centrafricain, de tuer le peuple centrafricain, d'asservir le peuple centrafricain. Et ce que Paul Cresson Beninga a essayé de minimiser, je lui dis que ce que je dis est vrai. Il n'y a pas de sentiment, mais c'est la réalité que j'ai comptabilisée.
Paul Cresson Beninga, sur le bilan, le conseiller du président de la République,
ministre conseiller spécial,
Monsieur Fidèle Gwandika, vient de communiquer sur le chiffre. Hein. Est-ce que vous êtes satisfait de ce bilan?
Oui, je vais revenir, mais je commencerai par Monsieur Bendunga. Ne me prêtez pas des intentions qui ne sont pas miennes.
Je ne vous les prête pas.
Encore moins des propos qui ne sont pas miens. Je n'ai pas minimisé ce qui s'est passé. La preuve, j'ai énuméré quelques exactions. Seulement, je dis, nous ne pouvons pas peindre tout en noir. C'est tout simplement ce que je vous reproche. Ceci dit, je voudrais dire au ministre Ngwandika, aussi longtemps que vous tenez ce discours-là, nous allons connaître des situations qui sont à déplorer. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque vous dites « il n'y a que Bozizé que nous cherchons à neutraliser », en fait, je reprends vos termes. Je pense que vous sous-estimez en réalité la capacité de toutes les organisations qui forment la coalition des patriotes.
C'est une façon de parler. Hein.
Non, ça trahit votre pensée. Pas je le dis pourquoi. Vous savez, de 2017 à 2021, on aurait dû pu résoudre le problème des groupes armés. On ne l'a pas fait. Les groupes armés, je le dis toujours, sont des mercenaires. C'est des gens qui se donnent au plus offrant. Bozizé est arrivé, il a pu les mobiliser parce que à ce moment-là, il était le plus offrant. Et donc, dire simplement que nous cherchons à le neutraliser, je ne réponds pas à vos termes, mais je le redis simplement, en laissant de côté Ali Darassa, Al-Khatim, Bobo et bien d'autres, je pense que le problème n'est pas résolu. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de ce que nous appelons la territorialisation. Les groupes armés font du commerce et il faut mettre un terme aux groupes armés. Il n'y a pas de petits mercenaires, il n'y a pas de grands mercenaires. Maintenant, sur le bilan, oui, je suis ravi que des gens soient interpellés, monsieur le ministre. C'est pourquoi je dis, je ne vais pas dire que tout a été mal fait. Il y a des choses qui, de mon point de vue, sont positives. Mais même sur les interpellations, il faut que ces interpellations-là respectent les droits de l'homme. On est d'accord. Et je vous ai dit tout à l'heure ici que j'ai remarqué pendant la période d'état d'urgence que nos forces de défense et de sécurité avaient la gâchette facile. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, on continue de déplorer au niveau de Niamnelewa ou Akui des cas d'exaction, à Mané et autres. Et voyez-vous, c'est des cas qu'il faut déplorer. Et ces exactions-là sont commises aussi bien, malheureusement, par des groupes armés et par nos forces de défense et sécurité appuyées par certaines forces étrangères. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'il faut mettre un terme à ces exactions-là. Au nom d'état d'urgence, on ne peut pas tuer les Centrafricains sans fondement aucun. Ce d'autant plus que lorsqu'il s'agit des civils et que ces civils-là, lorsqu'il arrive que ces civils-là sont de connivence avec les mercenaires, avec la rébellion, les rebelles, notamment la CPC, si ce sont des civils, on peut simplement les appréhender, les traduire devant la justice.
Bon, des civils avec armes.
Ça, c'est une autre chose. Oui, ça, je suis entièrement d'avis. Mais lorsqu'on interpelle, par exemple, lorsqu'on suit les échos qui nous parviennent de Bossangwa, les échos qui nous parviennent de Kouy, ce sont des civils non armés, chers amis. Et à partir de ce moment-là, il faut prendre des mesures idoines.
Monsieur,
c'est ce qu'on vous a dit.
Alors, moi, je vous remercie beaucoup. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les différentes interventions. Je me rends compte que nous faisons une confusion dans le sujet de notre débat. Notre débat, le résultat de l'état d'urgence. C'est-à-dire la faculté donnée au pouvoir administratif de poser des actes qui devaient relever du pouvoir judiciaire. Est-ce que vous me comprenez ? Donc, je fais ici la différence entre les combats, entre les belligérants, les forces armées centrafricaines contre la CPC. Ça, c'est des guerres qui ont lieu avec des pertes de tous côtés. Ce n'est pas ça que nous prenons en compte. Ce que nous prenons en compte, c'est la capacité des gens qui, lorsqu'il n'y a pas de guerre, suivez mon regard, il n'y a pas de guerre, vous interceptez en fonction de l'état d'urgence des gens qui circulaient librement, vous les faites asseoir, et puis après, en sachant qu'ils ne sont pas des combattants, qu'ils n'ont pas d'armes entre les mains, mais vous les tuez. Et c'est ça que je dis. Dès que vous vous rendez compte que quelqu'un, nous avons relevé pratiquement à Pawa, chaque semaine, des gens qu'on appréhende sur une moto, qu'on tue, qu'on prend la moto pour vendre à 50 000 francs.
Ben ça, c'est les rebelles.
Les Russes le font, les FACA le font.
Calmez-vous. Oui, bon. Allez-y.
Alors, donc, vous comprenez, ça, c'est l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est lorsque, par exemple, on fait les fouilles domiciliaires. Mais quand on a fait les fouilles domiciliaires, on se rend compte que des gens en uniforme, portant des armes, viennent rentrer dans les maisons, y compris tuer les occupants, pour prendre des effets. Et donc, cette entrée au domicile particulier, sans avis préalable de l'autorité judiciaire, c'est fait dans les règles de l'état d'urgence. C'est-à-dire c'est quelqu'un ça. Qui arrive devant votre maison, il est en uniforme, vous dites, bon, mais ça c'est les autorités de la loi, ils sont venus chez moi, et puis vous vous rendez compte que c'est des braquards. Et je crois que le ministre Ngwadjika devrait plutôt venir vers moi pour dire, mais ce que nous avons fait, qui a porté de mauvais résultats, qu'est-ce que nous pouvons faire à nouveau pour que ces mauvais résultats que nous avons obtenus n'existent plus? Je voudrais terminer ici pour dire quoi.
Oui, terminer.
Je voudrais terminer pour dire que j'ai vu la base des militaires rwandais à la JPN de Zila. Quand vous passez à 18h, 19h, ces militaires rwandais marchent à pied, en colonne. Ils vont jusqu'au fin fond de Samba. Ils vont jusqu'à la cimenterie. Et aujourd'hui, depuis qu'ils font la patrouille pédestre, il n'y a plus un seul coup de feu qui est tiré dans la zone. Aucun voleur qui a opéré dans cette zone-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les MINUSCA qui prennent des chars, qui prennent des blindés, qui font l'aéroport, qui reviennent, qui font le PK-12, qui reviennent. Ça, c'est pas protéger les populations. Nos militaires devraient rentrer dans des zones difficiles. Pour protéger les populations en vertu de l'état d'urgence. Et je crois que c'est pas le ministre Ngwadjika qui me démentirait.
Je peux vous démentir.
Oui, monsieur Bendouga, vous voulez rebondir.
Ce que nous avons constaté pendant cette période d'urgence-là, d'état d'urgence, c'est tirer des coups de feu en l'air, des rafales intempestives, juste pour intimider les gens, rentrer chez eux, comme le disent le président Bindoumi, fouiller, piller.
Et non, ça, c'est pas vrai.
S'il vous plaît, monsieur Ngwandika, souffrez qu'on vous dise les réalités que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, vous ne sortez pas. Vous êtes à Bouirab et que les réalités, par exemple.
Vous êtes à Sabador,
Les soldats à Boeing vont attraper une femme pour l'obliger de se déshabiller. Mais au moins, si on a eu une centrafricaine courageuse, cette dame-là a refusé de se déshabiller et on l'a conduit au commissariat. Et quand les autres, au moins, là, on est tombé sur des officiers sérieux.
Vous avez fini, c'est...
Non, laissez-moi une seconde expliquer.
Une seconde.
C'est qu'aujourd'hui, l'état d'urgence a servi de prétexte à notre armée et aux Russes de sévir sur le peuple
central. Mais puisque chacun autour de cette table a donné déjà son appréciation sur cet état d'urgence, M. Fidel Ngwandika,
écoutons
les réactions de quelques bangui sur cette même question. Je vous en prie.
Nous tenons à dire au gouvernement de pousser encore l'état d'urgence.
L'état d'urgence, beaucoup plus, nous allons constater que les forces régulières essaient de contrôler l'état en tant que tel, c'est-à-dire la ville de Bangui et d'autres préfectures ou bien au niveau des provinces. Et cela a donné quand même de bons rendements pour qu'aujourd'hui, on essaie de vivre comme on veut, mais pas comme nous l'avons souhaité, parce qu'il y a encore des choses qui restent.
Le gouvernement a pris cet état d'urgence pour sécuriser les centrafricains, premièrement, et pour les rebelles. Et cette décision avait porté fruit.
Beaucoup de choses qui ne marchent pas dans l'état d'urgence. Il y a des violences, il y a des braquages aussi. Donc pour moi, les gens prennent des armes pour voler des choses.
C'est l'état-major, la police et la gendarmerie. C'est eux qui devaient vraiment veiller par rapport à cette détonation des armes chaque nuit. Et parfois, on ne sait pas. Nous-mêmes, nous demandons, mais ça, qu'est-ce qui se passe?
Voilà, ce sont les avis des Centrafricains, M. Fidèle Ngwandika. L'état d'urgence n'est pas renouvelé. Cela veut dire que la menace n'est plus imminente ou bien?
M. Armando, c'est la question que vient de poser, c'est ce qu'a dit le ministre Bindoumi ici présent. L'état d'urgence a pris fin officiellement hier, vendredi le 6. Le gouvernement ne sait pas encore prononcer sur le maintien ou la levée totale définitive de cet état d'urgence. Et donc, prenez votre mal en patience et dans les 48 heures, vous allez suivre le gouvernement sur cet aspect.
Mais selon vous, hein, vous pensez que ça peut être renouvelé ou bien, puisque
non,
est-ce que les objectifs ont été atteints?
Moi, je dis que cet état d'urgence nous a permis de sauver les institutions de la République. Comme vous avez écouté selon ce reportage-là, le micro que vous avez entendu à la population, vous avez vu, les trois quarts sont positifs sur l'état d'urgence. Et donc, il y a seulement une personne qui dit qu'il y a eu des braquages.
Il y a deux ou trois personnes.
Même deux ou trois personnes.
Non, on a écouté la même chose.
Monsieur Bindoumi, je reviens vers vous.
Oui, quelques secondes.
Pourquoi quelques secondes? Quand je parle, je n'ai même pas encore fait une minute. Moi, je chronomètre aussi.
Vous avez fait une minute en seconde. Voilà,
Il y a deux contre moi.
Non, il n'y a pas deux paires contre quelqu'un.
Monsieur Bindoumi, avec tous les respects que je vous dois, vous avez été ministre de la Défense nationale dans ce pays. Je pense que à votre époque, vous présidez également les réunions de défense et de sécurité de la République centrafricaine. Moi, aujourd'hui, ça fait 6 ans, je suis membre permanent du Conseil de défense et de sécurité de la République centrafricaine. C'est présidé par le président de la République et beaucoup plus par le ministre de la Défense ou toutes les sommités de l'armée, que ce soit du côté des Nations Unies, de l'EITM, ont tient ces réunions-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici.
Comme quoi?
Il y a eu des interpellations, je vous avais dit. Il y a eu des fouilles dans les maisons. On a saisi des armes, 400 et quelques armes de guerre. Il y a les armes de chasse, il y a des grenades en quantité industrielle.
400 armes.
Non, attendez.
C'est le résultat.
Je n'ai pas. Monsieur, vous dites que je dois souffrir lorsque vous parlez. Et vous me perturbez.
Allez-y.
Vous voyez, vous savez très bien, monsieur Bindoumi, que 2/3 du pays était occupé. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Les radios étrangères. Oui, la RCA est occupée à 80%. Qui parle aujourd'hui de 80%? Je préfère. Bon, je ne veux pas dire que je préfère, mais il est. Ce qu'on a évité, c'est le grand pillage. Si le 13 janvier avait mis la République centrafricaine KO, c'est-à-dire que le coup d'État avait
réussi.
Avait réussi, merci monsieur. Mais on allait subir
un
pillage
pour l'instant.
Vous avez terminé.
Vous avez fait 3 minutes 17 secondes. Je donne la parole à monsieur Joseph Bindoumi, que vous voulez réagir rapidement. Mais sur l'état d'urgence, ce qui se passe dans le pays, avons atteint les objectifs recherchés?
Non, j'ai réagi parce que le ministre Ngwandika m'a interpellé, me disant que j'étais ministre de la Défense. Mais moi, j'ai toujours dit autour de cette table que je ne veux pas qu'on dise que je suis ministre de la Défense, parce que ça gêne les gens qui sont ministres de la Défense actuellement.
Pourquoi?
Mais moi, je dis, Ngwandika était à mes côtés.
Ben, bien sûr.
Il était à mes côtés quand j'ai lancé l'opération de maîtrise de la ville de Bangui. Il était à mes côtés. C'est celui qui était avec moi au fin fond de Boram. Et je dis qu'aujourd'hui, et je parle maintenant comme ancien ministre de la Défense, une ville de 1 million d'habitants ne peut pas souffrir d'avoir des braquages, des tueries, des coups de feu tous les jours, et qui ne ressemble même pas à un quartier, quelque part. Une ville comme Bangui, 1 million d'habitants.
Si j'étais ministre de la Défense, comme Ngwandika le souligne, en un mois, vous n'attendrez plus de coups de feu ici à Bangui.
C'est un défi que vous lancez.
Non, vous avez confondu votre fonction à la fonction d'un militaire ou d'un policier. Non,
vous avez
un ministre de la Défense, c'est un politicien, pas celui qui va dans les quartiers pour parler aux anti-Balaka. J'étais à côté de vous.
Je vous retire la parole sur ce point. Je reviens vers monsieur porte-parole du groupe de travail de la société civile, monsieur Paul Cressan Beniga. Avec ce bilan que vous avez écouté, le gouvernement n'arrive pas encore à renouveler cet état d'urgence. Est-ce que cela a permis déjà de mettre fin ou bien d'anéantir la situation, l'insécurité dans le pays?
Ne confondons plus les rôles. Je ne suis pas sûr que, au regard du bilan mitigé, il est important de renouveler l'état d'urgence. Je ne suis pas sûr. Je ne vois pas l'intérêt. Je dis ici que ce problème doit se résoudre sur deux échiquiers. Sur le plan sécuritaire d'une part et sur le plan de la défense d'autre part. Et il ne faut pas négliger l'aspect renseignement. Si nous avons un très bon service de renseignement, un service efficace de renseignement et que le ministère en charge de la sécurité publique fasse correctement son travail, je peux comprendre pourquoi il a titillé le président Bindoumi pour dire que ce n'est pas le rôle du ministre de la Défense. À l'intérieur d'une ville, il revient à la sécurité de faire son travail et la défense au niveau de nos frontières. Maintenant, à situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. On peut déployer la défense dans les villes. Aujourd'hui, les cas de braquage ne peuvent pas être résolus par le renouvellement d'un état d'urgence. Aujourd'hui, si la sécurité fait bien son travail la nuit, à défaut où on associe la défense, on peut résoudre ce problème là. C'est une question de volonté et il faut aller plus loin. Qui sont ceux qui sont des braqueurs? La plupart des camps, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des soldats. Malheureusement, ce sont des soldats centrafricains. Malheureusement,
les brebis galeuses.
Laissez-moi finir, voilà. S'il vous plaît. Laissez-moi finir. Oui. Ce sont des soldats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au niveau de la sécurité, au niveau de la défense, le travail est bien fait, on n'a pas besoin de décréter un état d'urgence parce qu'il y a trop de règlements de compte. C'est pourquoi je continue de titiller le président Bindoumi. Si nous avons des rapports explicites, ça nous permettrait davantage de secouer le gouvernement. Il va falloir qu'on nous donne des chiffres. Il y a trop d'exactions pendant cet état d'urgence-là. Il y a trop de tueries. Il y a trop d'assassinats, il y a trop d'exécutions sommaires. Quelqu'un a parlé de Pawa tout à l'heure. Mais, président Bindoumi, vous le savez, vous avez évoqué ce cas. Il me semble, selon les témoins recueillis, que les populations de Pawa ne peuvent pas aller au-delà de 5 km. Et quand elles vont au-delà de 5 km, ce ne sont pas les groupes armés auxquels ils ont affaire, mais ils ont plutôt affaire aux forces de défense et de sécurité. C'est des informations à prendre avec beaucoup de réserve, mais il faut corriger ces erreurs-là.
Il faut corriger, monsieur Fidem Gwandika, monsieur Joseph Bindunga. Oui. Est-ce que le couvre-feu a encore sa raison d'être du moment où les braquages sont devenus monnaie courante dans certains arrondissements de Bangui?
Que ce soit le couvre-feu, que ce soit l'état d'urgence, il faut arrêter ces bêtises-là. Parce que les résultats donnés... Aujourd'hui, vous voyez par exemple à Wantigira, à Boire, les sacs de manioc, les sacs d'arachide, la population obligée de dédouaner ça aux militaires. Cela a permis à notre armée de s'enrichir. Et je voulais dire que cela n'a pas porté son fruit. Pourquoi le renouvellement du gouvernement, on n'a pas vu les ministres de la Sécurité et de la Défense? Sanctions.
Selon vous?
Oui. Mais la réponse...
Ah mais non, le ministre, président, je vous aide. Le ministre de la Sécurité vient d'être promu patron du renseignement. C'est pas une sanction.
Non, vous savez, dans ce pays-là, le régime Touadéra évite d'avoir les mécontents. Tous ceux qui ont échoué, on les case quelque part pour qu'ils puissent être à la mangeoire et manger tranquillement.
Pas au renseignement l'armée, quand même.
Oui, et écoutez, quel renseignement dit. Ce monsieur-là, il était le ministre de la Sécurité de Bozizé. Cela n'a pas empêché la CELIC de venir chercher Bozizé. Et quand il était même ministre de la Sécurité, quand la CPC est venue jusqu'à la porte de Bangui. C'est vous dire qu'aujourd'hui, qu'on arrête, je pense qu'il suffit seulement de refaire...
30 secondes.
C'est de refaire la chaîne de commandement militaire et de commandement sécuritaire pour pouvoir restaurer la paix. Il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Combien de généraux sont allés au front combattre les rebelles, les terroristes? Aucun.
Monsieur
Ils
Fidem
sont là,
Gwandika.
Crânés dans la ville, bouffés de l'argent.
Oui, monsieur Fidem Gwandika, une dernière question pour vous. Est-ce qu'il faut renouveler l'état d'urgence? Si oui, donc ça veut dire que le bilan n'est pas encore ça.
Le renouvellement de l'état d'urgence est une question qui doit être résolue ou prise, décision prise par le Conseil des ministres ou l'Assemblée nationale. Le premier état d'urgence de 15 jours là, c'était l'Assemblée qui a donné ça.
Là, le chef d'État est autorisé.
Ben voilà. Monsieur Bindoumi, Monsieur Bendunga. Donc je voudrais vous dire seule chose, Monsieur Bendunga. Dire que l'armée nationale n'existe pas, c'est une insulte.
C'est une insulte. Constat
à la mémoire.
C'est un constat parce que
des soldats qui sont tombés sur le front.
Je m'incline
pour que
sur les vrais soldats sont morts au front.
Le pays soit libéré.
Et les faux soldats sont fusillés à Bangui.
Vous voyez.
Pendant que la CPC avançait, ce sont nos soldats qui informaient la CPC. Ce sont nos officiers.
Il n'a pas la parole.
Monsieur, je vous retire la parole.
Vous insultez l'armée nationale. Vous insultez les jeunes qu'on vient de recruter et qui meurent sur le front.
Les jeunes ont été utilisés comme des chairs à canon et les officiers sont à Bangui.
Je vous retire la parole. Finissez rapidement, M. Nguandika.
Je vais pas encore finir.
Quelques secondes
pour dire que l'armée qui n'était pas disciplinée, c'est cette armée qui vous a fait sortir du palais où vous étiez un bon opposant démocratique. On vous a fait sortir, on vous a tapé, votre pied n'est pas touché le sol.
On n'est pas sur ce point.
C'est ça, la mauvaise armée.
S'il vous plaît.
Aujourd'hui,
l'armée de Touadéra m'a battu à Lukatex. L'armée de Touadéra m'a battu à Lukatex.
Je vous retire vous deux la parole. Voilà. Respectez ce que je fais.
Il n'y a pas d'armée en Centrafrique.
Je vous retire.
Si on a une armée, allons-nous faire appel aux Russes? Allons-nous faire appel au petit Rwanda, un petit État comme le Rwanda qui vient faire la sécurité de la RCA?
Je vous coupe ici, je vous en prie. Merci à tout le monde et c'est la fin de ce débat politique de ce jour consacré au bilan de l'état d'urgence sécuritaire en Centrafrique. Merci d'avoir été des nôtres durant ces discussions politiques. Merci à Paul Christian Beninga, docteur en sciences politiques et porte-parole du groupe de travail de la société civile GTSC. Merci d'être venu.
Merci Armando.
Monsieur Joseph Bindoumi, à la prochaine, président de la Ligue Centrafricaine des droits de l'homme. Monsieur, merci d'avoir pris part à ce rendez-vous.
Merci beaucoup.
Vous en prie, on est limité et le temps nous fait défaut. Et merci aussi à vous, Monsieur Fidel Gwandjika, ministre et conseiller spécial du président de la République.
Merci et salutations à la population de Sagbado.
Joseph Bendunga, monsieur, merci aussi à vous.
Armando, merci et merci à mes co-débatteurs.
Député de Bimbo 3 et membre de l'opposition démocratique à la manette, Diane Stéphanie Bokula. Je suis Armando Yangendi, j'ai bénéficié de l'appui technique de toute l'équipe de la rédaction du média numéro 1 en Centrafrique, Radio Ndiké Luka. Prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.
Si on a une armée, on...